La première,
9h-10h,
l'histoire continue,
Bertrand N., Hélène Maquet.
Le but essentiel des organisateurs des Jeux olympiques de Munich était d'effacer le souvenir des Jeux de Berlin.
There were 11 hostages.
Il y avait 11 otages,
2 were killed.
2 ont été tués dans leur chambre hier matin.
9
ont été tués à l'aéroport ce soir. Ils sont tous partis.
They're all gone.
C'est l'histoire d'un mois de septembre, le mois de septembre 1972, où le monde a découvert un commando terroriste, le groupe Septembre Noir.
Les 20e Jeux Olympiques de Munich battent leur plein lorsqu'un groupe terroriste palestinien prend en otage 11 athlètes israéliens.
La prise d'otage va mal se terminer, très mal. Les autorités allemandes, mal préparées et dépassées, ont aligné les erreurs. Pour tous les services de sécurité du monde, il y aura un avant et un après Munich.
L'attentat marque un moment dans la cause palestinienne, celui du terrorisme international, prise d'otage et détournement d'avion.
Retour il y a 50 ans sur les tragiques Jeux Olympiques de Munich. Bonjour à toutes et à tous.
Et bienvenue dans cette saison 2, on va le dire comme ça, de l'histoire continue, épisode 43, si oui. Je ne m'abuse. Hélène, déjà.
Pour faire simple, on fera peut-être juste saison 2, épisode 1.
Oui, c'est plus simple, on
Allez,
va faire ça. Épisode
faire ça.
1, donc, où on se replonge à Munich.
Oui, 50 ans en arrière, dans une prise d'otage aussi spectaculaire que tragique, celle du groupe Septembre Noir lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972.
Cette prise d'otage est spectaculaire parce qu'elle se déroule sous les objectifs des caméras du monde entier qui étaient réunies pour les Jeux Olympiques à Munich. Et elle est aussi tragique car il y a 12 victimes, les 11 athlètes israéliens, un policier allemand, 5 preneurs d'otages qui meurent également et 3 qui survivent. Cette prise d'otage a pris les autorités allemandes de court. Elles ont enchaîné les erreurs. En matière d'antiterrorisme, Munich a vraiment été une leçon, hein, surtout en Europe.
Et puis cette prise d'otage est aussi un moment, un tournant peut-être dans le conflit israélo-palestinien. Après Munich, Israël va lancer une vaste opération de représailles, éliminer plusieurs responsables des événements. La résistance palestinienne va aussi évoluer et se détourner du terrorisme pour plutôt œuvrer à la reconnaissance internationale. C'est ce qui mènera l'OLP, l'Organisation pour la Libération de la Palestine, de Yasser Arafat, à la négociation des accords d'Oslo dans les années 90.
Alors, pour en parler avec nous, Bichara Kader, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'UC Louvain, vous êtes un des meilleurs connaisseurs en Belgique du monde arabe et des relations euro-arabes. Avec vous, on va tenter de comprendre l'impact de cet événement et comprendre comment la lutte pour la Palestine s'est transformée depuis lors. Vous êtes aussi le frère de Naïm Kader, premier représentant de l'OLP à Bruxelles, assassiné en 1981.
Alors, Bichara Kader, vous avez 78 ans. Vous aviez donc 28 ans à l'époque, c'est facile puisque ça fait 50 ans. Quel souvenir vous avez-vous de cette prise d'otage de Munich? Comment vous avez appris les événements, par exemple?
Après avoir obtenu une licence à l'Université catholique de Louvain, je suis parti dans une université américaine pour une maîtrise en relations internationales et je suis revenu pour entamer ma thèse de doctorat à Louvain. Donc en 72, j'étais à Leuven.
À Leuven. Ah oui, à l'époque, c'était
à l'époque. Et donc j'ai vu les images, comme tout le monde en Belgique, avec effroi. Et je dois dire avec inquiétude, parce que depuis 1967, je me suis engagé en tant que chercheur, en tant que professeur, à parler de la Palestine qui avait été occultée dans les médias européens pendant longtemps. Mon frère s'est engagé, lui, dans le groupe de Yasser Arafat, Fatah à l'époque. Et nous essayons d'ouvrir les yeux des Belges au drame, à la tragédie palestinienne. Et cet événement est survenu à un moment où nous essayons de changer ou devrait à changer les opinions publiques. Et je me suis dit, cet événement affreux dans des Jeux olympiques qui voulaient être des Jeux de paix allait ternir pour longtemps l'image de la Palestine et allait permettre à Israël de qualifier toute la résistance palestinienne comme un mouvement terroriste et non pas un mouvement de résistance.
On va revenir sur les conséquences de cet attentat à Munich. On se replonge d'abord 50 ans en arrière dans le stade olympique de Munich.
«
Le 26 août 1972, Joseph Romano ajuste son chapeau blanc et son costume bleu marine de la délégation olympique d'Israël. Large favori, large sourcil, large sourire, tout est large chez Joseph Romano. Il est haltérophile et il a la carrure de l'emploi. Joseph Romano a beau avoir un physique de videur de discothèque, il est ému quand il défile lors de la cérémonie d'ouverture de ses 20e Jeux Olympiques. Il est surpris par le souffle puissant de l'histoire. Car lui, l'athlète juif, marche dans le stade olympique de Munich et pas loin d'ici, il y a 27 ans, le sinistre camp de Dachau tournait encore à plein régime.
Le défilé des 10 000 participants aux Jeux Olympiques de 1972 commence sous vos yeux avec en tête, bien entendu, c'est la tradition, l'équipe de Grèce.
Dans ce pays, l'Allemagne, les derniers Jeux Olympiques en 1936 avaient tourné à la propagande nazie et à l'antisémitisme érigé en doctrine mortifère. Pour tous les commentateurs, comme Marc Geniaud de la RTBF, c'est clair. Munich 72 doit faire oublier Berlin 36.
Le but essentiel des organisateurs des Jeux Olympiques de Munich était d'effacer le souvenir des Jeux de Berlin. À Berlin, en 1936, en effet, les Jeux Olympiques avaient été dominés, écrasés par l'esprit du fascisme. L'on dit même qu'Hitler, après avoir félicité le prestigieux sprinter noir Jesse Owens, qui fut la grande vedette de ces Jeux Olympiques de Berlin, qu'Hitler quitta le stade pour aller se laver les mains. Munich 72 devait effacer Berlin 36.
Pour toutes ces raisons, ces Jeux de Munich sont particuliers. Voilà pourquoi Joseph Romano marche fièrement à Munich derrière l'étoile de David, le drapeau bleu et blanc d'Israël, son pays. Israël. Passé l'émotion, les Jeux commencent et se déroulent parfaitement. Plusieurs records du monde explosent.
Oh, c'est absolument extraordinaire. C'est un nouveau record du monde pour Marc Spitz. C'est le premier record du monde qui est battu ici dans les compétitions olympiques de Munich. Cornelius qui est très rapide va passer le Renner. C'est Porsche à fait premier. Shane Gould sur le podium avec le kangourou mascotte des nageuses australiennes.
Le champion olympique. C'est celui que tout le monde attendait, c'est Valérie Borchoff, en 10 secondes, 14 centièmes.
Tout se déroule normalement, jusqu'au 5 septembre. À 4h30 du matin, Joseph Romano dort paisiblement dans l'immeuble de la délégation israélienne, dans le village olympique. Mais un groupe de 8 hommes s'approche des barrières du village. Ils sont déguisés, en athlètes, dans leurs sacs de sport, des armes. Fusils mitrailleurs, pistolets, grenades. Les 8 hommes sont du groupe terroriste Septembre Noir, un groupe qui réclame la libération de la Palestine. Le commando, déguisé en sportif, se retrouve donc devant les clôtures et tente de trouver un passage, sans succès. Soudain, ils sont interpellés par d'autres athlètes qui passent par là. Ce sont des Canadiens. Ils reviennent d'une fête un peu éméchée. Croyant croiser d'autres athlètes fêtards, ils décident de s'entraider et leur font passer la barrière. L'obstacle franchi, les 8 hommes foncent vers le pavillon occupé par la délégation israélienne. C'est un petit immeuble, au style contemporain, de verre et de béton. Dans le hall de l'immeuble, les 8 hommes retirent leurs survêtements. Ils enfilent des cagoules, prennent les armes. Le bruit réveille un homme qui a le temps de donner l'alerte. Réveillé, un premier athlète s'enfuit. Un second, un entraîneur de lutte, Moshe Weinberg, tente d'intervenir. Il prend une balle dans la mâchoire. Les terroristes le forcent alors à le conduire jusqu'aux autres chambres. Moshe Weinberg les dirige vers celle des lutteurs et des haltérophiles, pensant peut-être qu'ils auront plus de chances de faire face aux terroristes.
c'est là que dort Joseph Romano. Comme les autres, il est surpris dans son sommeil par un déluge de cris et de coups de crosse. Et il est fait prisonnier. Moshe Weinberg, déjà blessé, tente une nouvelle fois de maîtriser un des preneurs d'otages. Il se lance sur eux, mais prend une balle dans le ventre et meurt. Dans la confusion, un homme parvient à s'enfuir. Joseph Romano, lui, se saisit d'un couteau et fonce vers les terroristes. Il parvient à en blesser un, mais il est abattu juste après. Joseph Romano meurt, vidé de son sang, au milieu de la pièce où sont maintenant détenus 8 de ses camarades. Munich se réveille. Ce matin-là, il y a déjà 2 morts. Les télévisions et radios du monde entier sont là et racontent les événements en direct.
La paix de ces Jeux olympiques, jusqu'ici très serein, a été brisée ce matin vers 5 heures, quand des terroristes arabes, armés de mitraillettes, le visage noirci, certains déguisés en éboueurs ou en gardes, ont escaladé les barrières du village olympique et sont entrés dans le QG de l'équipe israélienne. Ils ont immédiatement tué un homme, Moshe Weinberg, un coach, de 2 balles, une dans la tête, l'autre dans l'estomac. 14 otages sont prisonniers et les derniers rapports disent qu'un autre a été tué, mais nous n'avons pas de nom. No name on the second person killed, but it seems to be confirmed.
Les négociations commencent avec les autorités allemandes. Les terroristes demande la libération de 236 prisonniers palestiniens détenus en Israël. Sinon, ils abattront un otage toutes les heures. À Tel Aviv, la première ministre Golda Meir répond très vite qu'il n'y aura aucune libération. Israël refuse toute négociation avec les terroristes. En représailles, les preneurs d'otages jettent le corps de Moshe Weinberg, l'entraîneur, du balcon. Alors que le drame se joue devant les caméras du monde entier, le comité olympique se réunit. Il décide de continuer les Jeux. Une décision très contestée qui plonge l'olympisme dans un malaise profond. Marc Genio, de la RTBF, raconte en direct.
Quel est le climat qui règne ici depuis ce matin? C'est une atmosphère assez curieuse. Devant l'entrée du village, il y a une station, une foule considérable de gens qui guettent le moindre mouvement, qui attendent la moindre information. Des policiers et des soldats repoussent cette foule tant bien que mal et tentent de maintenir l'ordre comme ils le peuvent. En général, les gens sont d'ailleurs assez calmes. De temps en temps, bien sûr, une petite manifestation, des gens défilent. Tout à l'heure, des étudiants passaient en brandissant des calicots, « Stop the games », arrêter les jeux. Mais tout est très calme, un calme bien sûr relatif. Mais à 30 mètres de l'endroit même du drame, des gens ont pris cet après-midi des bains de soleil, d'autres se baignaient, et puis 50 mètres plus loin, des athlètes jouaient gentiment au football. Bien entendu, je le répète, cette tranquillité est très relative, tout le monde est très tendu, chacun se demande ce qui va arriver. Du studio où je vous parle maintenant, au lieu du drame, il y a une cinquantaine de mètres à peine. Et du bureau de la RTB, qui est mis à notre disposition dans les studios de la DOS, de la télévision allemande, nous pouvons voir, nous pouvons surveiller par la fenêtre tout ce qui se passe. Nous sommes à une cinquantaine de mètres de l'endroit du drame.
Le drame se joue donc sous le regard du monde entier. Des personnages encagoulés apparaissent parfois aux fenêtres. Les caméras montrent des émissaires négocier avec le chef du commando et son chapeau blanc. Elle montre des cuisiniers apporter des repas. Elle montre des terroristes donner des coups de crosse sur la tête d'un otage. Les caméras montrent des policiers allemands qui montent sur les toits pour tenter un assaut. Bien sûr, un assaut filmé qui n'a donc rien de secret pour le commando qui a lui aussi la télévision. Les caméras filment les policiers annuler leur opération et redescendre des toits, vaille que vaille. N'ayant pas d'unité formée pour des situations critiques, ce sont de simples policiers qui n'ont parfois jamais fait usage de leurs armes, qui sont envoyés en première ligne. Les autorités allemandes sont dépassées. Devant l'attitude inflexible d'Israël, les terroristes repoussent plusieurs fois leur ultimatum et changent leurs exigences. Il leur faut maintenant un avion et une exfiltration vers le Caire, en Égypte. Les Allemands cèdent. Ils prévoient des bus et des hélicoptères pour se rendre à la base aérienne de Fürstenfeldbruck, où les attend un Boeing 727. Les autorités montent un plan à l'aéroport. C'est là que ça doit se passer. L'équipage de l'avion est remplacé par des policiers qui devront maîtriser les preneurs d'otages lors de l'inspection de l'avion qu'ils ne manqueront pas de réaliser. Pendant ce temps, 5 tireurs d'élite devront, eux, neutraliser les autres membres du commando restés près des hélicoptères. Il est 22h30. Les hélicoptères se posent avec les terroristes et leurs 9 otages. Et rien ne va se passer comme prévu. Les Allemands pensent qu'il y a 4 ou 5 preneurs d'otages. Ils découvrent qu'ils sont 8. Leur dispositif est donc insuffisant. Les policiers qui sont dans l'avion paniquent. Ils s'enfuient sans avertir leurs supérieurs. Comme attendu, 3 membres du commando vont donc examiner l'avion. Découvrant qu'il n'y a pas d'équipage, les preneurs d'otages comprennent qu'ils ont été dupés. Ils hurlent, ils courent vers les hélicoptères où sont toujours les otages et les 5 autres terroristes. À ce moment, des projecteurs éclairent la piste comme en plein jour. Les tireurs d'élite ouvrent alors le feu, mais ils sont trop peu nombreux et mal placés. La fusillade dure plus d'une heure. Vers 22h30, les Allemands font intervenir des véhicules blindés, mais ils mettent une demi-heure pour arriver à l'aéroport, embouteillés par les curieux et les médias. Vers minuit, acculé, un des terroristes lâche une grenade dans un des hélicoptères qui explose, tuant les 3 otages présents. Un autre terroriste vide son chargeur sur les 5 otages restants qui meurent, les mains liées. Le fiasco est complet. Tous les otages sont morts, mais les autorités allemandes communiquent d'abord qu'ils sont vivants. Quelques journaux, arrivés à l'heure du bouclage, annoncent donc la bonne nouvelle. Mais vers 00h30, l'information est corrigée. La chaîne américaine ABC, qui est toujours en direct puisque c'est l'après-midi aux États-Unis, l'annonce.
Au début, nous avions dit que les otages étaient sains et saufs. Maintenant, ça a changé. Un porte-parole du comité olympique a dit que l'information qu'il nous a donnée était trop optimiste. Voilà ce qu'on peut dire.
Trop optimiste, l'euphémisme des autorités olympiques cache mal leur embarras. Les présentateurs continuent leur émission et quelques minutes plus tard, ils semblent hésiter avant d'annoncer les faits.
Les indications que nous avons ne sont pas bonnes. La journée se termine par de très mauvaises nouvelles. C'est difficile de conclure. Mais notre plus grande peur s'est réalisée ce soir. Il y avait 11 otages. 2 ont été tués dans leur chambre hier matin. 9 ont été tués à l'aéroport ce soir. Ils sont tous partis.
5 terroristes sont tués dans la tentative d'assaut menée par la police allemande. 3 sont capturés. Ils seront relâchés par l'Allemagne quelques semaines plus tard en réponse aux exigences des pirates qui ont détourné un Boeing de la Lufthansa à Beyrouth. Cette libération rapide choque Israël et pousse l'État hébreu à lancer une vaste opération d'élimination systématique des responsables de ce massacre. L'opération Colère de Dieu. Le Mossad pratiqua au moins une 10 d'assassinats ciblés à travers le monde. L'opération Colère de Dieu s'est terminée 20 ans plus tard, en 1992.
La première,
l'histoire continue.
Hélène Maquet, Bertrand N.
50 ans après cette prise d'otage sanglante aux Jeux Olympiques de Munich, on va essayer de comprendre l'impact de cet événement. Mais avant, restons un instant sur la prise d'otage elle-même. Bichara Kader, on le disait, professeur émérite à l'UC Louvain, spécialiste de la géopolitique, des relations euro-arabes. qui est Septembre Noir et pourquoi ce nom si particulier ?
Voilà, donc il faut situer cet événement tragique dans le contexte géopolitique à la fois de la région et dans le contexte géopolitique international. La guerre de 67 permet à Israël d'occuper un territoire de 100 000 km², c'est-à-dire trois fois la Belgique. Les armées arabes sont défaites, les populations arabes sont tout à fait désorientées, les Palestiniens s'engouffrent dans ce vide et se présentent comme ceux qui symbolisent la résistance à l'occupant israélien. Eh bien, cette résistance attire, séduit beaucoup de jeunes arabes qui rejoignent les camps d'entraînement des différentes fractions palestiniennes, parce que le mouvement de résistance palestinien n'est pas un mouvement homogène. Il y a le Fatah, qui est l'épine dorsale de ce mouvement, un mouvement trans-classe, trans-idéologique, qui recrute aussi bien dans les milieux musulmans que dans les milieux chrétiens. La preuve, c'est que mon frère, par exemple, qui était représentant de l'OLP en Belgique, faisait partie du Fatah du Yasser Arafat. Et puis, il y avait des fractions davantage marxistes, davantage gauchistes, qui avaient des liens, d'ailleurs, avec des mouvements d'extrême droite, d'extrême gauche en Europe, le Bader-Meinhof en Allemagne, l'Action directe en France, Brigate Rosse en Italie, l'Armée rouge même japonaise. Et donc, nous étions dans une période où l'extrême gauche avait en quelque sorte le vent en poupe. Et cette extrême gauche était très liée à un certain purisme idéologique face au pragmatisme du groupe Fatah, qui est le groupe majoritaire dans la résistance palestinienne. Eh bien, ces résistants se sont utilisés la Jordanie comme tremplin de la lutte. Parce qu'à l'intérieur, et c'est ça ce qui différencie la résistance palestinienne par rapport à la résistance algérienne, c'est que la résistance algérienne au colonialisme français se passait en Algérie, le maquis algérien, tandis que la résistance palestinienne recrutait dans les camps de réfugiés disséminés dans le monde arabe, notamment Jordanie, Liban et Syrie. Et donc, la Jordanie est devenue un tremplin de la résistance. À telle enseigne que ces résistants palestiniens ont constitué un État dans l'État jordanien. Et l'État jordanien s'est affolé, évidemment. Le roi Hussein de Jordanie a eu peur pour la monarchie jordanienne. D'autant plus que les résistants palestiniens, les militants palestiniens faisaient fi un peu de l'autorité du royaume de Jordanie. Ce qui fait que le royaume, après des détournements d'avions, trois avions dans un aéroport désaffecté de Zarqa, 6-7 septembre 1970, l'armée jordanienne s'est lancée...
Deux ans auparavant alors.
Comment
Deux ans auparavant,
l'armée jordanienne s'est lancée contre les camps d'entraînement des différentes factions palestiniennes et ils les ont forcés finalement à quitter la Jordanie pour se replier sur le Liban, où d'ailleurs ils vont subir le même sort, mais ça c'est une autre question.
D'où le nom Septembre Noir.
Cette opération jordanienne contre les Palestiniens.
Cette
opération de l'armée jordanienne, avec des complicités américaines et israéliennes évidentes, contre les militants palestiniens, pour les déloger et sauver la monarchie jordanienne et donc le royaume hachémite de Jordanie. Selon les estimations, cette opération militaire jordanienne a fait entre 4 000 et 10 000 morts parmi les Palestiniens. C'est pour ça qu'elle a été qualifiée de Septembre Noir. Elle a radicalisé une faction de la résistance palestinienne, dont le Front populaire de libération de la Palestine, dont le chef était un certain George Habash, un médecin de formation, un chrétien de religion. Et ce mouvement, refusant l'approche pragmatique de Yasser Arafat, s'est engagé dans des opérations de détournement d'avions, dans des attentats, attaques contre des Israéliens. Un, pour montrer que les Palestiniens existent alors que leur tragédie est occultée par les médias. Et deux, pour peut-être faire une surenchère militante par rapport à l'OLP de Yasser Arafat.
Et donc, un des objectifs de cette Ambre Noire, qui est donc ce groupe qui s'est créé suite à l'intervention des Jordaniens contre les résistants palestiniens installés là-bas, ça c'est vraiment un peu pour comprendre le nom, cette Ambre Noire, ce désir de vengeance aussi, puisqu'ils vont s'en prendre à des Jordaniens à l'international. Il n'y a pas que les Israéliens auxquels cette Ambre
Bien
Noire...
Bien sûr, ils n'ont pas oublié cette action inimaginable, ouais. Quelques années auparavant, ouais. D'un État arabe lançant ses troupes contre des résistants palestiniens qui étaient auréolés dans les rues arabes comme étant des résistants cherchant à libérer leur pays, ouais. Des griffes de l'occupant israélien.
Et donc ici, ils cherchent quoi, cette Ambre Noire à Munich en 72, en plein Jeux Olympiques? Ils cherchent vraiment à faire parler d'eux, enfin ils cherchent de la visibilité, quoi.
Écoutez, les spécialistes appellent ça le terrorisme information, c'est-à-dire forcer les médias à s'intéresser à la question palestinienne. Évidemment, l'effet néfaste, c'est que les médias se sont intéressés à la question palestinienne, mais d'un mauvais biais, c'est-à-dire désormais les Palestiniens, pendant quelques années, vont être associés au terrorisme et les Israéliens, évidemment, se réjouissent que dans les médias, lorsqu'on parle des Palestiniens, on parle essentiellement et on se concentre essentiellement sur le terrorisme palestinien.
Pour bien comprendre, Bichara Kader, ces attentats, cette prise d'otage de cette Ambre Noire, elle n'a pas été décidée par Yasser Arafat et par les grands leaders palestiniens. C'est une faction qui était un peu autonome
Non, au contraire. Ici, dans mon livre « L'Europe et la Palestine, des croisades de nos jours », je rappelle la colère de Yasser Arafat qui a accusé le FPLP et le Septembre Noir de gauchisme et d'aventurisme qui nuisent à la question palestinienne, à sa visibilité extérieure et à la légalité de son combat. Donc Yasser Arafat n'a jamais souscrit à ces genres d'attentats visant des Israéliens à l'extérieur des territoires occupés.
Alors à propos du contexte et de la signification à donner à ce terrorisme de Septembre Noir, le lendemain du massacre de Munich, la RTBF avait tendu son micro à Gérard Chalian, géostratège, qui venait d'écrire un livre sur la résistance palestinienne. Il se montre, avec le recul qu'on a aujourd'hui, plutôt clairvoyant, vous allez l'entendre, puisqu'il considère que ce terrorisme est désespéré et le signe que les Palestiniens ont beaucoup de difficultés à inverser le rapport de force sur le terrain favorable à Israël. On est donc le lendemain de la prise d'otage, le 6 septembre 1972.
Ce que, dans le terrorisme et l'horreur, a déclenché Septembre Noir, c'est une forme de guerre de libération.
Oui, si vous voulez, posons d'abord que les méthodes employées sur le plan humain sont réprouvables et que sur le plan politique, elles ne payent pas. Mais si on remonte à l'origine des faits, Septembre Noir, comme l'ensemble de la résistance palestinienne, en principe pose le problème du peuple palestinien qui a été dépossédé de sa terre. Cette terre, pour les Palestiniens, et ça c'est leur point de vue que j'essaye d'expliquer, cette terre pour les Palestiniens, c'est-à-dire la Cisjordanie actuelle, ce qui est Israël actuel, est estimée par le peuple palestinien comme étant le sien. Donc, pendant 20 ans, se trouvant dans des camps de réfugiés, trompés par les autres pays arabes, attendant des décisions des Nations Unies qui ne sont jamais venues, après la défaite arabe de 1967, les commandos palestiniens, d'une façon générale, ont décidé de prendre leur destin en main, le destin de leur peuple, et de tenter de poser leurs problèmes eux-mêmes.
Il n'y a pas d'autre recours que le terrorisme?
Si, bien sûr. Il y aurait même un recours autrement efficace. Ce serait ce qui avait été commencé entre 1967 et 1970, c'est-à-dire l'organisation d'une guerre menant à ce qu'on pourrait appeler une guerre populaire, une guerre de libération nationale. Seulement là, il y a eu un problème grave, et je crois que c'est une des faiblesses politiques intrinsèques de la résistance palestinienne, notamment du Fatah, qui est d'ailleurs le père de Septembre Noir, bien que ce soit officieux, c'est de n'avoir pas réussi à saisir que l'ennemi immédiat, donc principal de la résistance palestinienne, ce n'était pas les Israéliens, mais Hussein de Jordanie. Je crois d'ailleurs que l'histoire dans ce sens a tranché, puisqu'en septembre 1970, l'essentiel de la résistance palestinienne sur le terrain s'est fait liquider par les Bédouins de Hussein de Jordanie. Alors n'ayant pas compris que l'ennemi principal se trouvait là, la résistance palestinienne et notamment El Fat, puisque plus à gauche, le Front démocratique ou même le Front populaire l'ont compris, la résistance palestinienne s'est trouvée réduite à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un squelette avec de temps en temps un terrorisme de type publicitaire qui, en définitive, au moins auprès de l'opinion publique internationale, et particulièrement occidentale, ne paye pas du tout.
Lorsqu'on parle de résistance palestinienne, il faut l'entendre dans le sens où on l'entendait pendant la dernière guerre en Europe, c'est-à-dire résistance contre l'oppresseur.
C'est comme ça que les Palestiniens l'entendent. C'est la résistance contre ce qu'ils estiment être l'immixtion israélienne dans une terre qui fut pendant des siècles la leur. C'est une résistance au fait qu'on enterre la cause palestinienne un peu partout. On parle beaucoup de commandos, on enterre ça sous le terrorisme. Il est rare qu'on aborde le fait qu'il y a 2 millions de réfugiés, dont la moitié qui se trouvent dans des camps qui sont finalement à peine vivables sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire, et que ces gens, en principe, attendent de retourner, sinon dans toute la terre qu'ils ont occupée, ce qui est très franchement, compte tenu du rapport des forces, impossible, mais au moins dans la Cisjordanie, occupée aujourd'hui, depuis 1967, par les troupes israéliennes.
Israël ne cède jamais aux menaces de Septembre Noir. Est-ce que cela veut dire qu'Israël se sent toujours vulnérable ?
Non, Israël ne se sent pas du tout vulnérable. Israël est indiscutablement beaucoup plus fort, non seulement que la résistance palestinienne, mais que tous les États arabes réunis. Israël n'a d'ailleurs jamais été, depuis 1967, en danger de mort. Enfin, le problème de la survie d'Israël est un problème de mobilisation psychologique pour faire vibrer les âmes sensibles. Très franchement, si l'on parle de faits, les Israéliens, d'ailleurs de nombreux généraux israéliens l'ont même déclaré il y a quelques mois à peine, sont plus forts que les Arabes. Non, ce que les Israéliens, notamment les autorités israéliennes, ne veulent pas, en cédant une seule fois aux Palestiniens, aux commandos palestiniens, c'est montrer que ce type de terrorisme peut payer. Une fois pour toutes, les autorités israéliennes ont décidé qu'on n'accéderait à aucune demande du terrorisme et qu'on se battrait, quitte à ce qu'il y ait des victimes, de façon à ce que ce type de terrorisme soit considéré comme suicidaire.
Est-ce que le fait que le terrorisme a une telle ampleur prouve qu'on ne peut plus se passer de Septembre Noir pour un règlement ?
Non, en vérité, je pense qu'il n'y a pas de règlement en vue. Je ne pense pas que Septembre Noir œuvre pour un règlement. C'est très réellement un aveu d'impuissance. C'est le type d'acte désespéré où l'on essaye de montrer qu'on existe encore, mais on sait parfaitement qu'on ne va pas aboutir.
Alors, Bichara Kader, avis d'un géostratège comme vous, par rapport à cet avis donc, qui est dans son jus de 1972 de Gérard Chalian, qui est d'ailleurs né d'ailleurs ici à Bruxelles, puis qui a fait une grande carrière en France, sur cette idée que c'est un terrorisme un peu désespéré d'une cause arabe à ce moment-là, qui doit bien constater un rapport de force défavorable et plutôt favorable à Israël. C'est un peu ça le constat de Gérard Chalian, c'est que cet ombre noire, c'est pas si important, c'est surtout donc, oui, quelque part un acte désespéré. Vous êtes d'accord avec ça ?
Écoutez, je connais Gérard Chalian, j'ai lu ses livres.
Oui.
Je trouve qu'il est d'une très grande lucidité. Il ne dit pas autre chose de ce que je viens de dire.
Non.
C'est un terrorisme propagande et information. C'est une volonté d'une fraction gauchiste, d'extrême gauche palestinienne qui essaye de dire au monde entier que les Palestiniens existent alors que les Israéliens nient leur existence. Et c'est une manière également de mobiliser davantage dans le monde arabe que dans les pays occidentaux. Donc il ne se préoccupait pas tellement de l'effet sur l'image des Palestiniens en Occident. Partant du postulat que, de toute manière, l'Occident applaudit aux exploits d'Israël et derrière l'État d'Israël, et qu'il n'est pas nécessaire de chercher à modifier le rapport de force sur le plan des opinions publiques en Occident. Ce n'était pas mon point de vue, ce n'était pas le point de vue de mon frère. Nous avons toujours milité au début des années 70, c'est-à-dire au moment des attentats, en disant que les Occidentaux ne sont pas nécessairement pro-israéliens par sorte de consanguinité, par vocation, mais ils méconnaissent la réalité du conflit et qu'ils nous importent de apporter l'information à l'opinion publique afin que cette opinion publique se rende compte de la tragédie palestinienne et que la création de l'État d'Israël a signifié la dépossession de deux tiers de la population palestinienne réduite à l'état de réfugiés et que la mobilisation populaire est de toute manière beaucoup plus rentable que de commettre des actes suicidaires ici et là qui ne font que ternir l'image de la Palestine.
La première,
l'histoire continue. Bertrand N. Hélène Maquet.
Et on continue à dénouer le fil de cet événement, les 50 ans de la prise d'otages sanglante de Munich où 11 athlètes israéliens ont été tués après une tentative d'assaut de la police allemande contre les terroristes du groupe Septembre Noir.
Oui, et en conséquence, assez directe, Israël va lancer une vaste opération de représailles pour traquer, pour tuer les responsables de cette prise d'otage. C'est l'opération Colère de Dieu. Au total, bon, les chiffres ne sont pas très précis puisqu'il y a des secrets défense là autour, mais une dizaine de responsables identifiés par Israël vont être assassinés un peu partout dans le monde, d'ailleurs à Paris, au Caire. Ces événements sont d'ailleurs racontés dans un film de Steven Spielberg qui s'appelle Munich.
Bonjour, je vous parle en direct de Munich, en Allemagne de l'Ouest, depuis l'extérieur du village olympique. En ce moment, 8 ou 9 athlètes de l'équipe israélienne sont retenus en otage.
Ces terroristes appartiennent à un groupe nommé Septembre Noir.
Le commando braque des armes automatiques sur les otages.
Un accord a été pris, mais pour l'instant,
les Israéliens ont disparu.
Un déploiement de forces de sécurité.
Une position en face de nous.
Les Arabes ont l'air de se faire.
Nous avons 11 noms de Palestiniens. Chacun d'eux est impliqué dans Munich. Vous allez les tuer, un par un. Nous déposons de l'argent dans un coffre qui n'existe pas.
C'est $200,000 pour un seul nom.
Est-ce que je suis seul?
Avec 4 autres. Ils connaissent des choses utiles. Les documents, les voitures, le nettoyage.
Il va dans son lit et son poing active le mécanisme.
Je donne le signal en éteignant ma lampe.
Bichara Kader, est-ce que Munich a affaibli la cause palestinienne?
Écoutez, certainement pendant un an, les Palestiniens ont été ostracisés dans les opinions publiques, dans les chancelleries occidentales. Mais curieusement, un an après, 73, l'Europe se saisit du dossier et pour la première fois, la coopération politique européenne décide de s'emparer de ce conflit israélo-palestinien et l'Europe, pour la première fois, reconnaît les droits légitimes du peuple palestinien. Et en même temps, Yasser Arafat, en 74, est invité à parler à l'Assemblée générale des Nations Unies et là, il tend la perche aux Israéliens en reconnaissant implicitement le droit d'Israël à l'existence. Donc, les Palestiniens sont devenus beaucoup plus pragmatiques. Les armées arabes ont été défaites lamentablement par l'armée israélienne en 67. Les Palestiniens plaçaient leurs espoirs dans les armées arabes pour libérer la Palestine. Eh bien, déçus par la défaite de 67, les Palestiniens se sont en quelque sorte orientés vers une politique pragmatique, reconnaissant d'abord implicitement l'État d'Israël et puis explicitement l'État d'Israël en 1988 lorsque Yasser Arafat a proclamé l'indépendance de la Palestine à Alger. Et en même temps, l'Europe et la communauté internationale a pris conscience qu'on ne peut pas laisser ce problème sans solution. Et donc l'Europe a commencé par reconnaître les droits légitimes du peuple palestinien, puis les droits des Palestiniens à l'autodétermination, et puis l'Europe a refusé la colonisation israélienne, l'a condamnée, l'a considérée comme illégale, a reconnu que la nécessité d'avoir deux États vivants côte à côte, a reconnu que Jérusalem-Est est une partie occupée et qu'elle doit être la capitale de l'État futur de Palestine. Donc sur le plan de la déclaratoire, la position européenne est impeccable. Le problème, c'est que sur le plan opératoire, l'Europe, la diplomatie européenne est en quelque sorte édentée, incapable d'accorder leur parole à leurs actes. Donc les Palestiniens ont gagné dans les opinions publiques, ne sont plus ostracisés et aujourd'hui aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que cette occupation israélienne est intenable. Elle est porteuse de graves risques pour la stabilité régionale et pour la sécurité internationale, et qu'il faut s'atteler à trouver une solution. Sauf que l'occupation israélienne s'est maintenue, les colonies ont proliféré dans les territoires occupés, le territoire palestinien a été fragmenté en portions discontinues, sorte de confettis déconnectés, et aujourd'hui la solution de deux États est une impossibilité géographique. Mais les Palestiniens, au contraire, trouvent que leur cause aujourd'hui rencontre un écho extrêmement positif, non seulement dans les pays arabes, mais également en Europe, aux États-Unis et parmi les communautés juives, à la fois d'Europe et des États-Unis, que trouvent que les actions d'Israël vont très loin et finalement nuisent à la sécurité d'Israël à long terme.
Oui, donc il y a eu après Munich, un moment politique, notamment exactement, dominé par le Fatah, où on a essayé de reconquérir, si je comprends bien un peu les opinions, de convaincre de la cause palestinienne, plutôt que d'utiliser le terrorisme international. Il y a encore eu des détournements d'avions après, mais enfin, ça s'est vite terminé. Aujourd'hui, il y a encore, évidemment, d'autres factions palestiniennes. On voit bien que le Fatah a un petit peu diminué aussi en puissance. Il y a évidemment les factions islamistes. Puis on voit aujourd'hui le retour d'attentats, mais alors là, en Israël, par des loups solitaires. C'est un peu comme l'histoire en 72, le retour d'un terrorisme désespéré, Ishaq Haqader.
Écoutez, je suis en train de faire une étude sur l'asymétrie structurelle des rapports entre Israël et les Palestiniens.
Oui.
Israël, c'est une puissante armée dans la région du Moyen-Orient, c'est une économie prospère. Tout ce que fait Israël est planifié, programmé, et Israël vire vers l'extrême droite, comme on le constate tous les jours, et devient ingouvernable pratiquement, puisqu'il y a un débat idéologique à l'intérieur d'Israël. Il y a un débat idéologique à l'intérieur des Palestiniens, et cela surtout depuis les élections de 2006. En effet, l'Occident, au lieu de se préoccuper de l'occupation israélienne, de ses dangers pour la sécurité à la fois de la région et la sécurité internationale, a imposé aux Palestiniens, a sommé les Palestiniens de procéder à des élections démocratiques. Ce qui a été fait en 2006. Il se fait que dans ces élections, c'est le Hamas, la fraction islamiste, oui, des Palestiniens qui a gagné la majorité des sièges au Conseil national palestinien. Eh bien, l'Occident, qui prend la démocratie, a refusé le résultat de ces élections en imposant au Hamas trois conditions. Vous devez renoncer à la violence, vous devez reconnaître l'État d'Israël et vous devez reconnaître les accords d'Oslo. Or, on n'a jamais imposé de telles conditions au gouvernement israélien. Est-ce qu'on a demandé aux Israéliens de renoncer à l'occupation, de renoncer à la violence, de reconnaître le droit du peuple palestinien à l'autodétermination? Jamais les Israéliens n'ont reconnu le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et jamais les Israéliens, de bon foi, ont essayé appliquer ce qu'on appelle la déclaration d'Oslo. Donc,
il y a deux poids, deux mesures qui explique le passage à l'acte de certains.
Le Hamas s'est senti détroussé d'une victoire légitime. Et il va dès lors engager une lutte avec le Fatah, la principale branche palestinienne. Il va s'emparer de Gaza, il va éjecter les militants de Fatah de Gaza, il va constituer un gouvernement à Gaza et nous arrivons à un paradoxe fondamental dans la question palestinienne. Des Palestiniens qui n'ont pas un État mais qui ont deux gouvernements, un dirigé par les islamistes à Gaza et un autre dirigé par l'autorité palestinienne à Ramallah. Et donc c'est ça le drame, la tragédie du peuple palestinien. Une division qui a été suscitée en quelque sorte et encouragée par le refus de l'Occident, d'Israël et de l'autorité palestinienne à reconnaître la victoire légitime du Hamas dans des élections démocratiques auxquelles a participé Jimmy Carter, l'ancien président américain, en tant qu'observateur. Il avait reconnu dans un article dans le New York Times que ces élections étaient transparentes et libres. Et donc, voilà, la division palestinienne est liée à cet événement. Évidemment, cette division affaiblit l'acteur palestinien sur la scène régionale et dans le conflit israélo-palestinien, dans les négociations israélo-palestiniennes. De telle sorte qu'aujourd'hui, Israël a les coudées franches. Il a derrière lui une Amérique solidaire dont les liens avec Israël sont extrêmement solides. Et là, avec lui, une sorte de complaisance européenne qui critique évidemment l'illégalité de l'occupation, mais qui ne fait rien pour qu'un État palestinien puisse voir le jour. Et là, derrière lui, certains pays arabes qui normalisent leurs relations avec Israël. Et là, derrière lui, une division palestinienne, de telle sorte que les Israéliens ont beau dire que, bon, on n'a pas d'interlocuteur, les Palestiniens sont divisés, mais ils contribuent à cette division.
50 ans des relations israélo-palestiniennes depuis ce massacre aux Jeux Olympiques de Munich, on sent à quel point il y aurait des choses à dire encore pendant des heures. Malheureusement, on en a fini pour aujourd'hui. On y reviendra sans doute dans une autre émission. Merci beaucoup, Bichara Kader, d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.
Et si cet événement vous intéresse, sur la 3, ce samedi et dimanche, il y aura diffusion de 4 épisodes d'une série spéciale Munich 1972, les Jeux de la Terre. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue.
Avec les archives de la SONUMA, une émission réalisée par Bawandine.